Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue au club pour 2 heures de bonnes idées qui vont pimenter votre été. Aujourd'hui, nous recevons un roi de l'absurde à la française, un héritier des Monty Python devenu Robin des Bois. Il est scénariste, comédien et réalisateur, et s'il est tout ça à la fois, c'est peut-être grâce à cette hypersensibilité dont il vient nous parler aujourd'hui. Bonjour Maurice Barthélémy.
Bonjour Thomas.
Bienvenue dans ce club de l'été. Alors, hypersensibilité à laquelle vous consacrez une conférence comédie, on en parlera. Vous aurez le droit à votre portrait sonore et puis on s'intéressera à vos vacances, Maurice Barthélémy, sachant que vous avez quand même 2 destinations paradisiaques dans votre nom. Est-ce que c'est un hasard? Je ne le crois pas. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter les 2 cordes sensibles de cette émission. D'abord, Marjorie Adelson. Salut Marjorie.
Salut.
Quel est le programme du jour?
Aujourd'hui, c'est mercredi, donc c'est sortie ciné. On parlera de 2 films, Bac Nord et puis Les Fantasmes. Et après, on partira du côté des Vosges.
Parfait. Et puis Joe Hume. Salut.
Bonjour.
Joe. On va parler de quoi tout à l'heure?
Eh bien, tout à l'heure, nous allons nous rendre en Irlande, l'autre pays du rock'n'roll. Et puis, en deuxième partie, on ira s'intéresser à la carrière de George Michael.
George Michael, très bien. Avant 10h, notre invité média sera le médecin le plus populaire de France, Michel Simès. Il a plein de projets pour sa rentrée télé. Il vient nous en parler tout à l'heure. Vous le voyez, on est sur un programme de qualité supérieure, je crois qu'on peut le dire.
Premium.
Entièrement décoiffé. Pas le moindre sulfite, c'est vraiment formidable. Allez, n'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. Merci beaucoup d'être avec nous, le club est ouvert jusqu'à 11h.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Maurice, je peux vous appeler Maurice?
Oui, tout à fait, c'est mon prénom.
Parce que vous racontez que votre prénom vous a pourri la vie, littéralement.
Pourri la vie, c'est vrai que c'était un peu bizarre quand j'avais 5 ans de m'appeler Maurice, quoi, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est devenu hyper hipster, donc tout va bien.
C'est ça, c'est en train de revenir dans certains arrondissements de Paris. Alors Maurice, vous revenez avec une conférence sur le thème de l'hypersensibilité. Mm-hmm. C'est une adaptation de votre livre autobiographique, Fort comme un hypersensible, qui est paru en janvier dernier chez Michel Lafon. Alors déjà, pour ceux qui ne sont pas des habitués des psychologie et développement personnel. Comment est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est l'hypersensibilité?
Alors, je vais vous parler de ma propre hypersensibilité. Moi, j'ai une pensée en arborescence, c'est-à-dire que j'ai les idées qui se diffusent un petit peu comme un arbre généalogique, c'est-à-dire ouais. qu'une idée en amène 2, qui en amène 8, qui en amène 16. J'ai aussi une forte intuition, à la fois sur les gens, les situations. J'ai aussi ce que j'appelle une hyperesthésie, c'est-à-dire que tous mes sens sont un peu au taquet. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher.
Ah oui.
Donc je suis très sensible.
Tout le temps.
D'accord. Donc en fait, vous recevez énormément d'informations, mais vous avez parfois du mal à faire le tri. C'est
exactement. C'est ça. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est plus un problème d'information que d'émotion.
Ouais.
Donc c'est vrai que j'ai tendance tout le temps à enlever un peu ce malentendu. Beaucoup de gens disent « Ah, tu es hypersensible, donc hyper émotif ». Non, moi, je ne suis pas hyper émotif. En revanche, je suis assailli de 1001 informations dès le matin. Et ça me fatigue un peu.
Ouais, et vous insistez aussi là-dessus, c'est pas de la sensiblerie.
Non, exactement. C'est vraiment de la surinformation. Et ce qui fait que j'ai besoin de calmer mon mental parce que je suis toujours un peu sollicité.
Ouais.
Donc je fais appel à diverses techniques comme la méditation ou la sophro ou d'autres trucs comme ça.
Parce qu'en fait, vous avez des journées qui sont épuisantes. Le quotidien, finalement, il est assez difficile. Et vous, dans le spectacle, vous expliquez justement comment vous allez réussir à gérer ça au quotidien. C'est ça le but du spectacle aussi.
Exactement, oui. Alors, vous appelez ça spectacle, moi c'est plus conférence. L'idée, ouais. c'est vraiment que j'essaye d'apporter mes petites recettes du quotidien pour bien vivre mon hypersensibilité. Parce qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est plutôt une chance, c'est plutôt une force. Le seul truc, c'est qu'on développe des béquilles qui très vite peuvent être véritablement des petits handicaps au quotidien. Donc, moi, j'essaye de montrer comment j'essaye de trouver mes petites astuces pour bien profiter de cette hypersensibilité.
Et alors, c'est grâce à votre fille que vous avez découvert votre hypersensibilité? Comment ça s'est passé?
Parce que ma fille à l'époque avait 6-7 ans et je trouvais que c'était une gamine qui était très... à la fois très angoissée et en même temps toujours très passionnée. Elle avait des moments comme ça où elle découvrait par exemple la cuisine et pendant 8 jours elle faisait 2200 gâteaux. Donc je me disais qu'est-ce qu'a cet enfant? Et au bout d'un moment,
quelle est cette personne?
J'ai découvert que elle était hypersensible et que souvent les parents d'enfants hypersensibles le sont, et c'est comme ça que j'ai découvert ma propre hypersensibilité.
Parce que donc ça se transmet comme ça de mère en fille?
C'est ça, il y a un facteur génétique qui n'est pas encore complètement expliqué, mais qui est avéré, ouais.
Et alors vous aviez aussi beaucoup de tocs dans l'enfance, oui. Notamment le soir avant de vous coucher.
C'est ça, ouais. Oui, ça. Parce que les enfants hypersensibles sont souvent très angoissés. Et donc moi, pour calmer mes angoisses, j'avais des petits tocs et des petits rituels. Donc notamment, par exemple, avant de me coucher, j'allais aux toilettes pour être sûr de ne pas faire pipi au lit. Puis après, je descendais en bas dans l'entrée pour vérifier si la porte était fermée. Puis après, j'allais dans la cuisine voir si le gaz était éteint. Puis je remontais dans la salle de bain refaire pipi au cas où. Puis après, j'allais me coucher. Mais c'était pas terminé. Là, il fallait que je règle deux réveils pour être certain de me réveiller le lendemain, pour pas arriver en retard à l'école.
Ah, moi aussi, je l'ai, celle-là.
Ah bon, c'est vrai ? Ah bah, vous voyez.
Cinq réveils.
Mais ça nous fait souvent ça, d'ailleurs, quand on lit votre livre, c'est qu'on a l'impression de cocher pas mal de cases. D'ailleurs, vous vous dites qu'il y a 20 à 30% de la population qui serait hypersensible. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est vraiment hypersensible ? Parce que moi aussi, je suis hyper ponctuel. Moi aussi, j'aime pas les bruits de bouche, par exemple.
Bah, vous voyez, mais vous êtes misophone.
Mais ça fait pas forcément de moi un hypersensible, on
c'est
est
vrai,
d'accord.
C'est vrai, mais moi je dirais qu'il n'y a pas besoin vraiment de chercher une validation chez un psy ou un coach. Je pense que c'est assez simple de reconnaître son hypersensibilité. Souvent je compare ça au vertige. Quand on a le vertige, on ne se pose pas la question, on a le vertige. J'ai l'impression que si on se sent hypersensible, on peut se poser la question, on peut lire éventuellement pour un tout petit peu aller plus loin dans sa recherche, mais c'est aussi simple que d'être myope quelque part.
Ouais. Alors donc vous serez sur scène, ce sera à la Pépinière Théâtre à partir du 17 septembre. Vous avez dit, alors c'est une conférence comédie, donc c'est quoi ? C'est une conférence où on se poile un petit peu ?
Oui, c'est ça, c'est un peu hybride, c'est-à-dire que l'idée c'est que je suis sur scène et que j'explique un peu comment... c'est un témoignage de ma propre hypersensibilité, mais à la fin, j'aimerais bien que le public me pose des questions, qu'il puisse y avoir une interaction avec les gens dans la salle, voire même que des personnes témoignent de leur propre hypersensibilité. Enfin, l'idée, c'est que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y en a plein des hypersensibles de tout type. Et voilà, que ça soit un moment de détente et de rigolade aussi. Ouais.
Alors, j'ai lu dans votre livre que l'hypersensible a besoin de stimulation permanente. Eh bien, vous êtes tombé à la bonne adresse. On a plein de choses pour vous stimuler au programme. Aucun objet, je vous rassure. Mais d'abord, Maurice Barthélémy, on va écouter une chanson que vous aimez particulièrement et en bon hypersensible que vous êtes, vous avez choisi Le Silence, The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Merci d'être avec nous.
Oh, darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo me. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was
me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence.
The Sound of Silence de Simon & Garfunkel, c'est le choix de Maurice Barthélémy. Un petit mot sur ce choix, Maurice ?
Oui, oui, parce que ça, c'est une madeleine de Proust pour moi. Mes parents écoutaient énormément Simon & Garfunkel et en même temps, ça résonne tellement pour moi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui suis toujours gêné par les sons trop forts.
Ouais.
Et donc, le son du silence, essentiel.
Magnifique. Dans un instant, on dresse votre portrait, Maurice Barthélémy. À tout de suite, on revient dans moins d'une minute.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
En compagnie de Maurice Barthélémy jusqu'à 11h et c'est l'heure de votre portrait sonore, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier.
Ce matin, ma femme, Cagette, est partie avec mes trois enfants, Lulu, Jojo et Kaka. Elle s'en est allée à 6h45 vivre chez mon meilleur ami. Et je me suis dit, tiens, j'ai un petit peu le cafard. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais enfin, Mauricienne, qu'est-ce qui se passe? Relève-toi et ris de tout ça. Et regardez ce qui se passe.
Les Robin des Bois avec votre fameux sketch des thérapies de groupe collective animé par votre personnage Mauricienne qui est censé aider les autres mais qui passe son temps à leur aboyer dessus. Quel souvenir vous en gardez de ces Robin des Bois?
Très grand souvenir. Je crois qu'on a, passé 4 ans à rigoler et beaucoup à bosser parce qu'on travaillait comme des tordus.
Oui.
On sortait sur Comédie, on sortait 20 minutes de sketch par jour. Donc on n'arrêtait pas.
C'est énorme.
Sur Canal moins. Mais
c'est Dominique Farrugia qui est venu vous chercher. C'est
exactement. Ça ouais. À l'époque, on faisait une pièce qui s'appelait Robin des Bois, d'à peu près Alexandre Dumas. Et Farrugia est venu nous voir à Fontainebleau dans une grange. Et il s'est bidonné en voyant le spectacle. Et il nous a dit, est-ce que vous êtes OK pour que je vous produise à Paris? Et on a dit, mais c'est le Graal pour nous.
Ouais.
Et après, il y a eu l'expérience Comédie qui est arrivée. Et on a fait donc 2 ans sur Comédie, puis 2 ans à Canal. Et ça a été un moment assez dingue dans notre histoire. Ouais.
Et Isabelle Nanty, elle a joué aussi un rôle dans cette histoire.
Oui, puisqu'elle était notre prof à l'époque quand on était chez Florent. Et elle est venue jouer avec nous dans Robin des Bois, la pièce, où elle jouait la maman. Puisque l'idée de Robin des Bois, c'était un peu des enfants qui jouaient à Robin des Bois. Quoi. Et Isabelle jouait la mère. Et en revanche, quand on est passé à la télé, elle nous a dit je vous laisse y aller, moi c'est moins mon truc.
C'est marrant parce qu'on parle d'hypersensible depuis tout à l'heure et j'ai l'impression que vous étiez beaucoup à être des hypersensibles dans cette troupe des Robin des Bois. Finalement, je ne sais pas si c'est le hasard qui a fait les choses comme ça. Mais...
C'est pas tout à fait un hasard. Souvent, les hypersensibles entre eux se reniflent et donc du coup se réunissent. Mais c'est vrai que les Robins étaient tous des hypersensibles, mais très différents. Parce qu'il y avait des hypersensibles qui étaient assez extravertis, comme Pef par exemple, et puis d'autres qui étaient plus introverti comme Rouve. C'est vrai que c'est une vraie famille d'hypersensibles.
Du coup, la troupe, ça avait un côté un peu rassurant comme ça, d'être tous ensemble.
Totalement. C'est vrai qu'on se sentait protégé parce qu'on était 6, on était 4 mecs, 2 nanas. On était dans notre petit. C'était une mini secte. On se faisait rire entre nous. Et je me souviens qu'à Canal, ils nous avaient mis, mais à l'extérieur du bâtiment. C'est-à-dire que vraiment.
Voir, ouais.
Non, on était loin, on était avec les guignols. Et donc, du coup, vraiment, c'était les malades, on les met dans un autre bâtiment, le bâtiment des agités, quoi.
Et il y a moyen qu'on vous revoie ensemble un jour ?
Non, je ne pense pas. Peut-être dans un film, pourquoi pas, mais pas en tant que Robin des Bois.
D'accord.
Je trouve que la réunion des anciens comiques, c'est toujours compliqué. On l'a vu avec les Friends récemment, quoi. Ouais, c'était dur à vivre. Ouais. Si Friends n'y arrive pas,
pas non plus. C'est clair. Allez, extrait suivant.
J'ai fait un rêve où l'homme ne serait plus jamais perdu. Un rêve où l'homme qui cherche la rue Georgette Agutte trouve la rue Georgette Agutte. Un rêve où l'homme qui cherche un homme trouve un homme. Un rêve accessible à tous. Ce rêve aujourd'hui est devenu une réalité grâce au 118-218. Prochain,
votez 118-218. Alors, on leur a fait une petite pub gratos ce matin sur Europe 1. Vous avez été réalisateur de plein de publicités dans celle-ci.
Toutes. ouais. Quasiment, ouais. C'est-à-dire, j'en ai fait plus de 100 pour le 118, 218.
Ah ouais, mais pour plein d'autres marques aussi. Hein.
D'autres marques ouais, aussi, ouais. Ouais. J'ai fait pas mal de pubs à une époque, et c'est vrai que je suis responsable de cette épidémie en partie avec l'agence, évidemment.
Qui nous restait dans la tête toute la journée.
Ah ouais, ça nous prenait... Mais c'est vrai que je me suis beaucoup amusé à faire ça, et j'avais beaucoup de liberté surtout. Et c'est... Donc, j'ai pu continuer sous une autre forme, un peu cet humour absurde qu'on avait commencé avec.
Vous en faites encore des pubs ?
Non.
Non ?
Non, non, non.
C'était juste une période de votre vie ?
Ouais, c'était une période, c'était, vous voyez, c'était il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, j'ai arrêté. Puis surtout que, ben voilà, je crois qu'il y a des moments comme ça, ouais, où on se dit, ben ouais, je suis dispo. C'est assez chronophage de faire de la pub.
Mais ça a dû vous apprendre beaucoup pour votre métier de réalisateur ensuite.
Énormément. Ouais. Et puis surtout, ça m'a permis de rencontrer des techniciens, des techniciennes. Et j'ai beaucoup aimé. Puis j'avais plein d'a priori sur la pub qui se sont avérés complètement faux. Et j'ai bien aimé travailler là, dans ce milieu.
Alors justement, Maurice Barthélémy, réalisateur.
Bonsoir.
Je voulais savoir si vous restez une chambre.
Simple ou double ?
Double.
Madame attend dans la voiture.
Non, c'est pas madame, c'est monsieur.
Là. Bonsoir madame.
Voilà, c'est votre film Papa en 2005 avec Alain Chabat, un très beau film intimiste. Et là, j'ai l'impression que vous vouliez faire découvrir aussi un peu une autre facette de votre personnalité, finalement peut-être un peu plus sérieuse que celle qu'on connaissait des Robins.
Ouais, 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 exactement. Et puis c'était une histoire qui me tenait à cœur, qui était arrivée à une de mes sœurs. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est un film qui m'a fait plaisir de pouvoir sortir, quoi. Ça fait aussi partie de moi, ouais.
Ouais, et puis ça marque aussi peut-être un tournant dans votre carrière finalement, parce que c'est peut-être grâce à ça qu'aujourd'hui vous vous permettez aussi de sortir un livre autobiographique, tout ça, quoi.
Ouais, exactement. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment fait pour réaliser, c'est-à-dire que c'était plus ma nature. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais vers un moi qui est plus moi que le moi des Robins. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais quelqu'un d'assez extraverti, qui se foutait souvent à poil d'ailleurs.
Oui, et c'est vrai.
C'est
terminé,
beaucoup, ça qui... Oui, c'est terminé. Qui tombait beaucoup, etc. Et puis aujourd'hui, je suis quelqu'un de beaucoup plus calme parce que c'est ma vraie nature. Ouais. Et c'est vrai que par la réalisation, j'ai vraiment compris qu'il fallait que je sois moi-même, quoi.
C'était une couverture, tout ça. Allez, dans un instant, Joe Hume, un petit peu de tourisme musical.
Oui, bah vous savez, j'ai été steward dans ma vie avant de faire ce métier-là, donc on ne s'en fait pas.
J'aurais bien aimé que vous veniez avec le costume, ça aurait été chouette.
Ouais, j'ai plus ça, il ne va plus, hein, vous savez, je rentre plus dedans.
Allez, à tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Le club de l'été de notre invité Maurice Barthélémy ce matin. Et alors aujourd'hui avec Joe Hume... Il va enfiler son uniforme de directeur d'office du tourisme rock.
Oui,
alors où est-ce qu'on va partir ?
Eh bien, on grimpe dans l'avion direction l'Irlande aujourd'hui, un pays riche en histoire, en mythes, en bière, mais aussi en tradition rock, une tradition qui date des années 60, parce que lorsque la British Invasion débarque en Angleterre, son influence déborde évidemment sur les nations voisines que sont l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande.
Mais tous les grands groupes de l'époque, ils viennent surtout d'Angleterre, non ?
Alors tout à fait. D'ailleurs, le seul truc qui marche en Irlande durant une partie des ce sont les groupes de reprise, des groupes souvent composés de musiciens très très compétents et qui se spécialisent dans les reprises de hits américains et anglais et les jouent dans des clubs, dans des pubs, en live. L'un des seuls groupes qui tire son épingle du jeu et produit des morceaux originaux, c'est le groupe Them. Them qui signe quelques tubes entre 1964 et 1967, dont ce Gloria, ou encore Here Comes the Night que David Bowie reprendra en 1974 sur son album de reprise Pin-Ups. Puis ils se séparent et leur leader, Van Morrison, s'envole vers une très belle carrière solo portée par ce morceau Brown Eyed Girl. Do you remember when we used to sing Voilà, si vous étiez de mauvaise humeur, c'est terminé dorénavant grâce à cette chanson. Merci Europe 1. Les années 70 en Irlande sont dominées un petit peu par ce que j'appelle la division 2 du rock. Alors attention, je dis pas du tout ça de manière péjorative. C'est juste qu'aussi bon soit-il, des groupes comme les Boomtown Rats, Stiff Little Fingers ou encore les Undertones qui surfent sur la vague punk qui sévit alors en Angleterre, ils vont jamais vraiment remplir des stades entiers ailleurs qu'à leur domicile. L'exception, car en Irlande, il y a quasi une exception par décennie à peu près, c'est le groupe Thin Lizzy.
Ça, jamais entendu.
C'est vrai ?
Ah non.
Putain, et c'est dans plein de films. Ouais, c'est leur gros tube, Thin Lizzy, qui sont un peu des pionniers du hard. C'est un groupe contemporain de Led Zeppelin, de Black Sabbath, mais qui vont proposer un rock beaucoup plus accrocheur, presque pop, qui va carrément aller séduire le public américain, comme je le disais, et marquer les oreilles des futurs Metallica, Foo Fighters, qui des années plus tard rendront hommage à Thin Lizzy en en faisant définitivement un groupe culte.
Et alors, vous disiez que chaque décennie avait son groupe d'exception en Irlande. Oui. Mais alors, dans les années 80, c'est qui, du coup?
Bah, Thomas, voyons. Si je vous dis New Year's Day, Sunday Bloody Sunday, Pride in the Name of Love.
Bien sûr, U2.
Voilà, exactement. Peut-être le plus grand groupe de l'histoire du rock irlandais et un des plus grands groupes de rock tout court. Là, on connaît plus que Thin Lizzy, là, j'ai l'impression,
ouais,
Thomas.
Plus, ouais.
On est un petit peu plus en zone de confort. Alors, U2, qu'on aime ou pas, c'est l'équivalent rock d'une force de la nature. C'est un groupe qui, à son plus fort, a réussi à fédérer le monde entier autour d'une musique pleine de rage et de cœur, à la fois sensible, galvanisante, engagée, avec une vraie conscience sociale, politique, un groupe humaniste, finalement. Et même si, par la suite, une personnalité comme celle de Bono a pu en agacer plus d'un, U2 reste un pilier indéboulonnable. C'est probablement les artistes européens qui se rapprochent le plus, je sais pas, d'un Bruce Springsteen par exemple dans l'esprit, avec des albums pensés avant tout pour être joués dans des gigantesques stades devant des dizaines de milliers de personnes, avec des concerts de minimum 2h30, avec quasiment que des morceaux que tout le monde connaît par cœur.
Là, c'est la version live.
On est en live. Hein. On est en live.
Moi, ça me fait penser à Coldplay un peu aujourd'hui.
Oui, c'est oui.
C'est un peu les héritiers.
C'est un peu les héritiers de U2. On peut carrément dire ça.
Est-ce qu'il y a eu un effet U2? Est-ce que soudain les projecteurs se sont braqués sur l'Irlande?
Alors, pas vraiment. C'est-à-dire que l'impulsion provoquée par U2, elle a pas donné lieu à une grosse vague du rock irlandais qui est restée finalement un petit peu à la marge, ce qui n'empêchera pas quelques groupes de sortir du lot entre les années 90 et aujourd'hui. Le plus connu restant probablement à ce jour les Cranberries.
Ah putain. J'ai tourné dans un clip des Cranberries.
Mais justement, on va y venir.
Bien sûr.
On va y venir.
Il devance les casseroles.
C'est vrai, c'est pas du tout une casserole à mon goût.
Non.
Mais les Cranberries, effectivement, dont le single Dreams, d'ailleurs, a longtemps été utilisé pour illustrer les publicités pour le tourisme en Irlande. Vous entendez ça et c'est presque instantanément un voyage en terre celte. Et alors effectivement, hasard ou signe du destin, Maurice, mais en préparant cette émission et en revoyant des clips des Cranberries, on s'est aperçu avec la rédaction, un petit peu étonné, que Jean-Paul Rouve et vous, en 1999, en pleine vague Robin des Bois sur Canal, ce moment-là, vous apparaissez dans la vidéo du morceau Promises, avec Mai Wen également, qui joue le rôle d'une sorte de sorcière qui envoie des lasers avec ses mains. Ouais. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans
c'est
ce...
C'est pas un petit rôle, hein, on précise, hein, on vous voit vraiment pendant tout le clip. Hein.
Ouais, il est vraiment une c'est une anomalie de l'histoire de la musique. Nous-mêmes, on se demandait ce qu'on faisait là. Mais c'était drôle parce que le réalisateur était français.
Oui, c'était Olivier Dahan.
Olivier Dahan qui a réalisé La Môme par la suite. Et on s'est retrouvés parce qu'il cherchait une équipe de rigolos. Et à l'époque, on était l'équipe de rigolos du moment. Et donc, Rouve et moi, on se retrouve là-dessus. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, ça fait bizarre de se revoir dans ce clip.
C'est étonnant de le voir parce qu'il y a une sorte de décalage comme ça entre la musique de ce morceau qui est très galvanisante, très rock, et vous à côté qui racontez une histoire un petit peu absurde, quoi.
Oui, c'est ça, on est deux shérifs et en fait il y a une sorcière qui nous poursuit, et j'ai découvert bien plus tard que c'était Mai Wen qui jouait la sorcière.
Ah bon?
Ouais. On s'était jamais croisé.
Elle était vraiment très très jeune en plus à l'époque.
Allez voir ce clip à Promises de Cranberries.
Alors en tout cas, même si quelques excellents groupes ont émergé ces dernières années en Irlande, le dernier groupe irlandais à vraiment bien s'exporter partout, c'est les Cranberries.
Merci beaucoup Joe Hume, restez avec nous parce que dans un instant notre invité média sera le docteur qu'on aimerait tous avoir, l'excellent Michel Simès. On arrive.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Notre invité média du jour est spécialisé en otorhino-laryngologie, mais si je l'appelle ce matin, ce n'est pas pour lui parler de ma trompe de stache. Non, c'est parce qu'on retrouve ce matin ce médecin le mardi 31 août à 21h aux commandes d'un nouveau numéro des pouvoirs extraordinaires du corps humain aux côtés d'Adriana Carambeu sur France 2. Bonjour Michel Simès.
Bonjour Thomas, bonjour. C'est bien, vous connaissez bien l'anatomie.
Vous avez vu un peu. Alors comment ça, se sont passées ces premières vacances en tant que retraité de la médecine? Racontez-nous.
Je suis un pseudo-retraité parce qu'effectivement vous devez faire référence au fait que j'arrête un petit peu l'hôpital. En fait j'ai devancé d'un an la retraite. Bon, et après je vais continuer. Vous savez, je reçois tellement de coups de fil de potes dans la journée pour traiter les petits bobos ou des grosses maladies que finalement je ne suis pas vraiment à la retraite et ça se passe très bien.
On est tous hypochondriaques hein, dans ce milieu, c'est bien connu. En fait c'est une demi-retraite parce que si vous raccrochez un petit peu la blouse à l'hôpital, en revanche vos activités elles vont se multiplier à la rentrée entre la télé, la radio, mais aussi une série. Et alors, vous lancez la rentrée de France 2 avec un nouveau numéro des pouvoirs extraordinaires du corps humain. Ce sera le mardi 31 août. Dans ce numéro, vous allez dévoiler les mystères de nos gènes avec cette grande question éternelle qui intéressera aussi notre invité Maurice Barthélémy qui est à mes côtés. Quelle est la part d'inné, ce qui est inscrit dans nos gènes, et quelle est la part d'acquis? Vous n'avez pas trouvé la réponse à ça encore?
C'est moi, à titre personnel, je l'ai pas complètement trouvé, mais les scientifiques non plus. Ouais. À part qu'il y a quand même des chiffres qui circulent. Alors c'est variable selon les scientifiques, mais certains disent qu'on aurait 30% de notre patrimoine génétique qui ferait de nous des gens programmés. Et 70% de nos gènes sur lesquels on pourrait prendre la main en changeant un petit peu nos habitudes de vie. Alors que ce soit 30-70, 40-60 ou 50-50, ce qui est le plus important et ce qu'on essaye de montrer dans l'émission, c'est que nous sommes certes programmés parce que nous avons dans nos cellules des gènes qui font que nous sommes blancs ou noirs, grands ou petits, etc. Mais il y a surtout beaucoup de gènes sur lesquels on peut avoir une influence. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, qui est une véritable révolution en médecine, en changeant des petites habitudes de vie, sans bouleverser et sans oublier la notion de plaisir. Bah vous pouvez agir sur votre espérance de vie en bonne santé, l'activité physique, le changement un peu d'alimentation, tout ça fait que vous pouvez augmenter votre espérance de vie en bonne santé. Et c'est là-dessus qu'on a voulu insister dans l'émission. Et c'est ça qui est le message d'espoir.
Et donc ça veut dire qu'au final, on part avec une base génétique qui permet à n'importe qui d'être un grand médecin comme vous ou un musicien hors pair, c'est possible?
Alors, on peut pas aller jusque-là, mais regardez la famille qu'on a suivie, qui est une famille de musiciens sur trois générations, ils ont l'oreille absolue. Donc, ils ont probablement des gènes de prédisposition pour devenir de grands musiciens. Mais si vous les placez pas dans un contexte de musique, eh ben, ces gens-là vont passer à côté de ce qu'on peut appeler un don ou de cette prédisposition. Le contexte est essentiel parce que sinon, s'il suffisait d'avoir des gènes de prédisposition pour être un grand musicien, on n'aurait pas besoin de bosser. Donc il y a le contexte, l'environnement qui est essentiel pour pouvoir, avec les gènes qu'on a, en faire quelque chose.
Ouais. Alors autre chose très intéressant dans ce documentaire, c'est que demain on aura la possibilité de manipuler nos gènes pour guérir des maladies. C'est en tout cas l'espoir que promet une découverte française qu'on appelle un peu vulgairement les ciseaux moléculaires, c'est ça?
Ouais. Alors c'est ça, c'est le CRISPR-Cas9 qui est effectivement sont des ciseaux moléculaires, on emploie comme ça pour simplifier, mais c'est finalement très simple, alors pas à manipuler, mais c'est très simple à imaginer. Vous avez un gène qui est malade, un mauvais gène. Mmh. On coupe avant, on coupe après et on le remplace par un gène sain. Alors, dit comme ça, c'est de la science-fiction. Hein. Bien évidemment, c'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais demain, on pourra modifier probablement le génome pour enlever les gènes de certaines maladies génétiques. Et surtout, on pourra aussi se servir de ces ciseaux moléculaires pour fabriquer de nouveaux médicaments, pour fabriquer de nouvelles thérapies. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Ça a valu le prix Nobel. Ces ciseaux moléculaires, en plus, ça fascine le public parce que c'est vrai que c'est assez simple à imaginer ou à illustrer.
Alors, c'est le dernier épisode inédit là, des pouvoirs extraordinaires du corps humain. Place au pouvoir extraordinaire de l'esprit après ça, c'est ça?
Alors, il y en aura un autre. Il y en aura un autre qu'on a tourné avec Adriana. Mais après, effectivement, on arrête cette série parce qu'on s'est tous dit, l'équipe de production, qu'on avait fait le tour du corps humain tel qu'on voulait le montrer. Et maintenant, on va s'intéresser à autre chose. On va probablement se balader un peu plus dans le monde pour aller comprendre les maladies, les médecines que notre esprit cartésien et européen ne comprend pas. Si je vais voir des chamans aujourd'hui, je ne comprends rien à ce qu'ils font. Mmh. Eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi ça peut marcher.
Ah, d'accord. Et alors, Le Parisien a annoncé cet été que vous étiez aussi en train de travailler un nouveau concept autour de la santé pour le dimanche après-midi. Est-ce que vous retravaillez votre magazine Antidote ou ce sera carrément une nouvelle émission?
Oui, ça va être une nouvelle émission parce qu'en fait, Antidote, on a eu... c'est compliqué la télévision le dimanche après-midi à 17h40 parce qu'une semaine sur deux, vous avez du sport qui fait sauter votre émission. Donc pour fidéliser, c'est compliqué. Mmh. Donc on est parti sur un autre concept complètement différent qui sera annoncé par la conférence de presse par la présidente. Donc je ne veux pas spoiler sous peine de me faire virer. mais ce sera une émission beaucoup plus... oui, ce sera complètement différent, vous verrez. D'accord. On vous dira ça.
Et alors, et votre talk show, ça ne sortira pas d'ici? Il est toujours en pause ou il peut revenir, lui?
Ah, il est malheureux. Je vais vous dire, malheureusement, il est toujours en pause. Mais je suis très têtu et je pense que un jour ou l'autre, vous le reverrez. Je ne sais pas sous quelle forme ni où, mais je ne vais pas lâcher ça. Je m'étais tellement éclaté et puis les gens qui venaient étaient tellement contents. De parler d'autre chose que forcément que de promo, que voilà, j'aimerais bien que ça reprenne, parce que je crois que c'était une très très belle émission.
Bon, et puis vous, il y a un gène que vous avez visiblement, c'est celui de la comédie, vous l'avez depuis longtemps celui-là, Michel Simès. Le téléfilm la Doc et le Veto dont vous étiez le héros, diffusé sur France 3 en mars dernier, ça avait été un grand succès. Vous partez en tournage avec de nouveaux épisodes, j'imagine?
Ouais. Absolument, on va peut-être en faire 3 cette année et je peux vous dire que je pars là lundi, je recommence le tournage du deuxième numéro en Auvergne et je suis très très content effectivement. Alors, je ne sais pas si j'ai le gène de la comédie, mais en tout cas je m'éclate à faire ça et puis en plus je le fais en jouant un rôle de veto. Métier que je rêvais de faire quand j'étais plus petit. Et bon, j'ai pas honte, je suis assez fier d'être médecin. Mais ça, j'adore. Et puis toute l'équipe, Dunia Cossins, qui est ma partenaire dans le téléfilm, on s'éclate. C'est génial. On a hâte de recommencer. Ouais.
Bon, et puis alors un dernier petit mot, parce qu'on vous a beaucoup moins entendu sur la crise sanitaire ces derniers mois. Comment est-ce que vous vivez ces débats là qu'on a en France, un peu enflammés en ce moment autour de la vaccination? J'imagine que ça vous agace un peu, non?
Alors, comment voulez-vous que je vive? Je vais vous dire, je crois que... alors, nous sommes 66 millions de Français. Il y a 200 000 personnes qui manifestent dans les rues dans toute la France. Je pense qu'il faudrait arrêter d'en parler parce qu'ils ne représentent rien. L'énorme majorité des Français est pour la vaccination. L'énorme majorité des Français est pour le pass sanitaire. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a 200 000 personnes égoïstes qui se baladent dans les rues en criant des slogans dont certains dépassent complètement le cadre sanitaire, puisque vous avez des pancartes antisémites ou anti-Macron qui se promènent dans les défilés. Je crois qu'il faut arrêter d'en parler. Ces gens-là ne représentent rien. Il y a des ex-politiques qui veulent se refaire une santé aux dépens de la santé des Français. Je crois qu'il faut arrêter juste de parler de ces gens-là. Ils ne représentent, ils sont marginaux, ils ne représentent rien et la majorité silencieuse est pour qu'on puisse se sortir de tout ça. Tout ce qui se passe dans les rues aujourd'hui est effarant. Moi, je suis vacciné, j'ai mon pass sanitaire et je peux vous dire, comme vous sûrement Thomas, que si demain je vais au ciné ou que je retourne au Parc des Princes, eh ben, je préfère avoir à côté de moi des gens qui sont vaccinés, qui ont leur pass sanitaire et pas des égoïstes qui pensent qu'à eux et pas à la collectivité.
Eh ben, c'est dit. Merci beaucoup Michel Simès d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ce franc-parler comme d'habitude. Je rappelle qu'on vous retrouve mardi 31 août à 21h05 sur France 2 aux côtés d'Adriana Carambeu dans Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, consacré donc au mystère de nos gènes. Merci beaucoup. Dans un instant, on va partir en vacances avec vous, Maurice Barthélémy. On a envie d'absolument tout savoir sur vos vacances, mais avant cela, une petite douceur dans nos oreilles. C'est Le temps de l'amour de Françoise Hardy par le groupe Bon Entendeur. C'était le temps de l'amour de Bon Entendeur et Françoise Hardy. Maurice Barthélémy, chargez le coffre de la voiture. On part en vacances dans exactement 30 secondes.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Eh oui, c'est le club de l'été de notre invité Maurice Barthélémy. Et ça y est, on va partir en vacances avec vous. Maurice, on claque la porte, on met le contact. Et c'est parti, on démarre la bagnole.
Alors, c'est marrant cette voix que t'as. Je t'imagine trop sur la route.
Allez, Coco, on y va. Alors, où est-ce qu'on part en fait? Où est-ce que vous partez en général en vacances, Maurice Barthélémy?
Moi, je pars souvent en Espagne, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie.
Ah ouais, pourquoi ce coin en particulier?
Parce que j'ai de la famille qui y vit et que j'ai une véritable passion pour cette région qui est sublimissime.
Et alors en France, vous avez un attachement à la Lorraine en particulier?
Oui, effectivement, toute la partie Barthélémy et de Lorraine, donc des étangs de l'Indre qui est au fin fond de la Moselle. Mais c'est sublime, c'est très austère, mais c'est très très beau.
Et puis le Cap Corse.
Le Cap Corse, oui, tout à fait. Ouais. Centuri, moi, quand j'étais à Canal, j'allais très souvent là-bas me reposer. C'est un endroit absolument fou.
Parce que ce qu'il faut dire aussi sur vous, Maurice Barthélémy, c'est que vous avez beaucoup voyagé, dès le départ d'ailleurs, dès votre naissance. Ouais. Vous êtes né en Bolivie,
ouais, tout à fait,
à 3600 mètres d'altitude.
Oui, à La Paz.
Donc déjà un petit manque d'oxygène.
C'est ça, et mes parents étaient en poste là-bas. Et puis après, je suis parti au Sri Lanka, après au Maroc. Mes parents étaient diplomates, donc je bougeais beaucoup.
Mais vous gardez des souvenirs de tous ces pays ou c'est un peu flou dans votre tête?
Ah, c'est un peu flou, surtout que j'ai une mémoire assez sélective. Et donc du coup, oui, j'ai pas mal oublié de choses, mais j'ai beaucoup voyagé par la suite. J'ai été au Honduras, ma mère était d'Haïti, donc je suis moitié français, moitié haïtien. Je suis mélangé, quoi.
Vous nous disiez d'ailleurs tout à l'heure, quand on parlait de Steward, que vous les adorez, les Steward. Pourquoi?
Mais c'est vrai, les Steward et les hôtesses, j'ai un lien particulier. C'était un peu mes papas et mes mamans quand je voyageais tout seul en avion. Et encore aujourd'hui, je regarde toujours les hôtesses et les moments de solitude qu'elles ont au moment de l'atterrissage où elles sont assises sur leur siège. Et là, on voit passer leur vie dans leur regard. J'adore les observer.
Et alors, contraste entre tous ces voyages et votre destination finale, la Picardie. Vous aimez beaucoup ce coin de France. Racontez-nous.
Ouais, j'ai grandi en Picardie de 3 à 13 ans à peu près, près de Compiègne. Et c'est vrai que j'ai gardé une tendresse pour cette région qui n'est pas des plus joyeuses, mais j'ai passé des super moments là-bas. Ouais.
Et alors, quand vous partez en vacances, vous partez avec qui en général? C'est plutôt famille, potes?
Plutôt potes, ouais. J'aime bien partir. J'ai une bande de potes que j'ai depuis toujours, depuis le lycée, c'est-à-dire depuis 30 ans, et on part régulièrement en vacances ensemble. Ouais.
Donc c'est pas les Romains des Bois. Hein.
Non.
Ça vous arrive de partir avec les Romains ou vous
pouvez non, plus maintenant.
Ouais, vous pouvez
non,
plus
aujourd'hui
vous
on a des
maintenant.
Plannings trop différents, et puis on est devenus trop chiants, quoi.
mais est-ce que vous vous entendez bien encore?
Oui, très
ou est-ce
bien.
Qu'il y a des vraies dissensions?
Non, là pour le coup, on est vraiment encore très très amis. On a un fil WhatsApp ou sur lequel on échange encore beaucoup aujourd'hui, mais on se voit peu en revanche.
Ouais. Et alors, si vous deviez partir en vacances avec une personnalité, qui ce serait?
Ah, c'est une bonne question.
Alain Chabat, par exemple.
Ouais.
Je vous imagine bien avec lui, parce que vous avez fait un film avec lui.
Oui, et partir avec Chabat, ce serait rigolo. Moi, je me souviens qu'à l'époque de l'écriture de Reux, on était tellement en retard sur l'écriture de scénario que Chabat nous a enfermés dans un hôtel pour qu'on termine l'écriture du scénario. Et donc, on a passé 10 jours à l'hôtel avec lui, et c'est des grands souvenirs, ouais.
Bon, puis alors l'été, c'est aussi la télé. Et la télé, vous y avez participé cet été en allant dans Fort Boyard pour la première fois.
Ah oui.
Je sais qu'ils vous l'ont proposé plein de fois.
C'est vrai.
Et pourquoi vous avez accepté cette fois-ci?
C'était pour l'association que je défends, dont je suis le parrain, qui est une association qui protège les primates, les grands singes, les chimpanzés au Congo. Et donc, je leur ai dit, ok, moi j'y vais, mais si on peut récupérer de l'argent pour eux... alors ils ont dit, ok, bon, vous êtes le chef d'équipe. Et à ce moment-là, et donc j'ai dit oui.
Mais c'est pas hyper recommandé pour un hypersensible. On est d'accord.
Surtout pour un gars qui a une double hernie discale.
Là j'ai pris cher.
Mais sinon j'ai pris beaucoup de plaisir.
Non, parce que c'est très physique, il faut le dire, et puis ça dure très longtemps.
L'enregistrement dure très longtemps, la journée, ouais. Il n'en finit plus, parce qu'il y a deux émissions en plus. Hein. Ouais, donc, c'est compliqué.
Et vous avez le droit à des bestioles. Hein.
Et les bestioles, ouais, j'ai mis ma tête au milieu des rats, des cafards, des pigeons, des mouches. Il y a même des pigeons qui m'ont chié dessus. Enfin, bref, ouais. c'était compliqué. Mais je ne recommencerai pas. Hein. Je me suis bien amusé.
Ouais, content. Allez, on va finir par une expérience un petit peu plus facile, vous allez voir. On va vous mettre devant les vrais grands choix de l'été. Maurice Barthélémy, en vacances, est-ce que vous êtes plutôt étoile filante ou étoile de mer ?
Étoile de mer.
Piscine ou océan ?
Piscine.
Magnétiseur ou masseur ?
Magnétiseur.
Tambouille ou glandouille ?
Tambouille.
Ah oui ? Ouais. Jamais de glandouille ?
Ah si, ah, énormément aussi.
Camembert ou reblochon ?
Camembert.
Vous préférez les bruits d'un gars qui mâche un chewing-gum ou qui tape sur son clavier ?
Qui tape sur le clavier, sans problème.
En mâchant un chewing-gum.
Cigale ou fourmi ?
Cigale.
Ah, pourtant c'est l'autre qui est silencieuse. Hein.
Voilà. Oui, c'est vrai.
Aix-en-Provence ou Sex-en-Provence ?
Sex-en-Provence, évidemment.
L'île de Saint-Barthélemy ou Saint-Barthélemy d'Anjou dans le 49 ?
Le 49.
Ah merci, ça me fait très plaisir. C'est là où habitaient mes grands-parents. Serviette ou fouta ?
Fouta, plus léger.
Sudoku ou fait sonore ? Pardon.
Le deuxième.
Très bien. Barbec ou plancha ?
Plancha.
Acrobranche ou balade en forêt ?
Acrobranche.
Un petit côté Robin des Bois, comme ça. Et pour finir, vous êtes plutôt re ou
Re, évidemment.
Bien sûr. Merci beaucoup, Maurice Barthélémy. Allez, dans un instant, le rappel des titres de 10h et puis on ouvrira enfin le mini-club de Clément Lanoux qui est dans ce studio.
Bonjour tout le monde. J'ai appris plein de choses depuis le début de l'émission. Merci beaucoup. C'est passionnant, notamment Thomas, où habitent vos grands-parents.
C'est intéressant. Ouais. Beaucoup d'infos ce matin sur Europe 1 et d'autres infos à suivre dans un instant.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de ce club de l'été jusqu'à 11h et nous avons la chance de recevoir ce matin un homme hyper sensible et hyper sympa, Maurice Barthélémy, avec lequel nous faisons une hyper bonne émission. Oui, n'ayons pas peur de nous jeter des fleurs, personne ne le fera à notre place, messieurs dames. Maurice Barthélémy, je vous l'ai promis, on va vous tester dans un instant avec un blind test spécialement conçu pour vous. On va jouer avec des chanteurs dont le nom est aussi un prénom. Genre Maurice Barthélémy, sauf d'accord. Que vous avez rien chanté.
Oui, ouais. Ça. Et je suis très mauvais chanteur.
À part des choses indiffusables peut-être.
Tout à fait.
Et puis Marjorie Adelson, vous allez partager avec nous votre indispensable du jour.
Oui, deux films qui sortent aujourd'hui en salle, Les Fantasmes de David Foenkinos et puis Bac Nord de Cédric Jimenez.
Bah oui, on est mercredi, jour des sorties. Et puis côté musique, on a Joe Hume bien sûr.
Tout à fait, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Superbement bien, merci et vous.
Qu'est-ce que vous nous proposez ?
Eh ben, on ira inspecter un petit peu la carrière de George Michael tout à l'heure.
Ah, très bien, envie. inspectons. Et puis on terminera comme d'habitude par un coup de fil à un chef qui nous donnera sa petite recette de l'été. Aujourd'hui, c'est Virginie Basselot, chef du Negresco à Nice. C'est quand même la classe, mais avant tout ça, on ouvre le mini-club du grand Clément Lanoux. Comment ça va, Clément ?
Très bien, bonjour à tous. Oui, bonjour. Je dis bonjour. Salut. À moitié d'émission, je suis ce qu'on appelle un hyper en retard. C'est assez particulier, je fais une conférence là-dessus. Moi, mon rôle dans cette émission, c'est justement de garder les enfants de l'équipe et les autres enfants, ouais. De leur poser des questions, sympa. Savoir un petit peu ce qui se passe cet été dans l'actu. Et là, le bilan aujourd'hui, à 10 jours de la rentrée, on est clairement aux amours de vacances. Pour tous ceux qui n'ont pas pu draguer, reste 10 jours pour cet amour de vacances.
Les histoires sans lendemain.
Quelle est, ou ça peut durer toute la vie, on ne sait jamais. Quelle est la meilleure technique de drague en 2021 ? C'est la question que j'ai posée aux enfants.
Ah. Pour la draguer, tu peux passer à côté d'elle, lui faire des beaux yeux et faire les sourcils qui montent et qui descendent. Au pire, on n'arrête pas de faire du sport en la regardant et en classe, t'arrêtes pas de la regarder. Et aussi, ce que tu fais, c'est que tu te fais une belle mèche, tu vas chez le coiffeur, tu te fais une belle crête.
Voilà, par exemple, tu te fais un beau gosse avec les cheveux en l'air.
Oui, et leur parler de leur talent. De notre talent.
Et c'est quoi notre talent ?
Moi, c'est draguer et puis après d'emmener dans un petit coin.
Et quand tu dragues, t'es comment alors ? Raconte-moi un petit peu comment tu dragues.
Quand je drague, je lève les sourcils, je dis veux-tu m'embrasser ? Regarde comment j'ai des beaux yeux, je lui montre mes beaux muscles.
Et ça marche ?
De temps en temps.
Tous les combien ?
Tous les deux ans.
Ça fonctionne tous les deux ans. C'est une belle manière, mais peut-être pas la plus efficace. Donc je leur ai parlé évidemment, c'est une génération smartphone, je leur ai parlé des sites de rencontres. Et là, quand je leur ai demandé justement c'est quoi la meilleure technique et que l'un m'a répondu les sites de rencontres, il y a eu comme chez les adultes un vrai débat. Alors ils n'étaient pas d'accord. Hein.
aller sur Tinder.
Bah non, parce que sinon, tu peux te faire arnaquer des fois. Puis que tu connais même pas ton père, ni sa mère, tu connais même pas sa famille, c'est nul.
Tu connais pas directement son père, là aussi.
Bah oui, mais c'est nul, imagine, elle t'arnaque, t'es obligé de la payer.
Pour ou contre les rencontres sur Internet, alors?
Attends. Moi, si je trouve une fille dehors, bah je vais essayer de la draguer.
Et comment tu vas t'y prendre?
Bah, je veux me faire beau, je veux me mettre du parfum, je veux lui parler de comment je l'aime et tout. Parce que ça marche tout le temps.
Ça marche tout le temps, apparemment. Donc au début, ça commençait bien, c'était mignon. Puis je me suis dit, c'est à cet âge-là qu'on apprend vraiment le rapport aux autres, les relations amoureuses. Et il faut être très précis quand on éduque les enfants sur la notion de consentement. Vous allez voir que c'est moins drôle, mais j'ai tenu à les éduquer là-dessus. Ah.
Puis aussi, j'ai une façon. Tu l'embrasses sur la joue, et puis juste après, tu tournes ta tête. Puis au moins, tu l'embrasses sur sa bouche, ça marche tout le temps. C'est mon père qui m'a appris ça, parce qu'un jour, j'ai regardé un film, ils ont fait pareil.
Ouais, mais bon, faut qu'elle soit d'accord, en fait.
Bah oui. En fait, tu lui dis salut, tu l'embrasses sur la joue, et puis après, tu tournes la tête.
Mais si elle veut pas, faut pas le faire.
Non, mais c'est pas elle qui décide, en fait.
Bah si, faut que ce soit elle qui décide.
Tu lui fais une surprise. Au moins, elle va sentir que tu l'adores, donc elle va être amoureuse de toi.
Mais faut quand même qu'elle soit d'accord.
Bah non.
Ah bah si.
D'accord.
Ah bah c'est très important, ça.
Oui, allez, passe à lui, là.
Passe à lui, là.
Tu m'as saoulé. Voilà.
Je me suis dit, c'était important de leur dire, je suis passé au suivant. Et on a terminé, justement, avec de la mignonnerie puissance 10 000.
Et toi, alors, c'est quoi ta technique de drague?
Bah moi, c'est quand je croise une fille dans la rue que je trouve belle, bah je vais me mettre en costard, je vais mettre les plus belles chaussures que j'ai, et je vais lui offrir des fleurs. Et après, aller dans un resto.
Ah ouais. Faire une lune de nuit.
C'est quoi une lune de nuit?
Ben, en fait, tu t'es assis, peut-être dans ta voiture ou à terre. Et puis, en fait, tu restes un petit peu dehors pour regarder le ciel. Et puis, si, des fois, tu fais des mariages comme ça.
Alors, c'est mignon parce qu'il a confondu, je pense, lune de miel et clair de lune.
Oui,
donc, voilà, si vous voulez draguer cet été, ce sera mon seul conseil. Allez vous promener au clair de. Non, comment il a dit? Aux lunes de nuit. Aux lunes de nuit. C'est ça. Voilà.
Ah, merci beaucoup, Clément. Les enfants sont formidables. C'est ce qu'on se dit à chaque fois. Vous revenez vendredi pour la dernière?
Exactement.
Avec un dernier petit mini club, un dernier bonheur avec Clément Lanoux. Dans un instant, les sorties ciné avec Marjorie Adelson. On revient dans deux minutes. À tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
La suite du club de l'été avec toujours Maurice Barthélémy, Joe est là aussi, Clément Lanoux est resté avec nous.
Je vais rester, vous m'avez mis 118-218 dans la tête tout à l'heure. Je vais
arrêter de leur faire de la pub à cela. Et puis Marjorie Adelson est là bien sûr pour parler sortie ciné aujourd'hui. On est mercredi.
On recevait hier David Fuenquinos pour son nouveau film co-réalisé avec son frère Stéphane. Il sort aujourd'hui en salle. Alors pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, c'est un film pour pimenter
votre couple.
Voilà, c'est une erreur. Et deuxièmement, c'est un film pour pimenter votre couple. Ça s'appelle Les Fantasmes. C'est un film à sketch. Il explore le désir et donc les fantasmes à travers six histoires de couple. Alors c'est un fantasme par histoire, le tout de manière très ludique.
Alors il y a les commentaires.
Les commentaires.
Bah oui, regarde là.
Alors il y a un petit souci de son là.
On est en amont.
On l'aime bien celui-là, cela dit, on l'a passé aussi hier, c'est Jean-Paul Rouve.
Exactement, Jean-Paul Rouve et Karine Viard, en fait, qui décident de réaliser un de leurs fantasmes, en fait, qui est de se filmer et de poster le tout sur les réseaux sociaux. Ouais. Et le moins qu'on puisse dire, écoutez, c'est que ça buzz.
Regarde les commentaires.
Les commentaires.
Bah oui, regarde là. Tiens, au hasard, elle envoie du lourd, la daronne.
C'est moi?
Oui, c'est toi. Suce-moi la milf, t'es kiffante. T'es kiffante, mon amour.
C'est de la cougar de bâtard. Oh mon Dieu, mais il y a une faute à chaque mot.
Et les gens sont contents, c'est ça qui compte. Tiens, et regarde autre chose, les catégories. Regarde, cocu, triplette, passe un linge, vomi. Il y a des gens qui sont excités par le vomi. Non mais tu te rends compte? Mais nous, on est des petits joueurs à côté. On est bien sages.
Je sais pas si on est bien sage, mais en tout cas, on est bien dans la merde.
Vous l'avez pas vu, Maurice, encore
Non, je l'ai pas encore vu, non, mais ça me fait rire, en tout cas, ce que j'entends.
Voilà, vous avez entendu là, le fantasme de Karine Viard et Jean-Paul Rouve, mais il y a aussi des fantasmes plus farfelus, par exemple, comme la sorophilie.
Alors, qu'est-ce que c'est ça?
C'est le fait d'être excité, en fait, par la sœur de l'être aimé. Et c'est ce qui arrive à Ramzi Bedia.
Ma sœur? Bonjour.
On s'embrasse, non?
Il est merveilleux. T'es un énorme malade?
Ma sœur est folle de toi, elle n'attend qu'une chose, c'est que tu l'épouses, et toi, tu me fais une déclaration de merde. Non, mais j'hallucine, t'es... Non, mais... Mais va te faire soigner.
Voilà, alors, on dirait pas, mais c'est un film grand public, hein, rassurez-vous. La grande réussite, c'est que les frères Fuenquinos, ils utilisent les fantasmes en fait, pour questionner de manière intelligente le couple aujourd'hui. Comment rester fidèle? Peut-on éviter la lassitude?
Éternelle question.
Voilà, tout le monde se pose ces questions-là. Et puis, comme d'habitude avec eux, c'est toujours très bien écrit, malgré le sujet. On n'est jamais dans le graveleux, c'est ça qui est chouette. Les sketchs s'enchaînent avec une vraie fluidité. Ça va de l'ironie subtile jusqu'à l'humour noir.
Ouais, et puis surtout, il y a un sacré casting. Hein, on l'a vu sur l'affiche.
Ouais. Je vous parlais tout à l'heure du couple Jean-Paul Rouve et Karine Viard. Mais il y a aussi Monica Bellucci et Carole Bouquet qui jouent un couple de lesbiennes. Ramzy et Alice Taglioni. Nicolas Bedos et Céline Salette, pour ne citer que, je vous conseille vraiment d'y aller, ça va vous requinquer.
Allez, deuxième film qui sort ce mercredi en salle, Marjorie, dont vous vouliez nous parler, c'est Bac Nord. Ça aussi, ça fait beaucoup de bruit.
Oui, c'est une plongée dans le Marseille populaire, celui des quartiers nord. Gilles Lelouch, François Civil et Karim Leclou incarnent trois policiers de la brigade anticriminalité, donc la BAC. Et on y suit en fait leur quotidien entre pression du chiffre et tension sur le terrain.
Tu es comme ça, tu touffes. Hein ?
Tu sais quoi, on sert à rien. On sert plus à rien. C'est fini. Plus je fais ce métier, moins je le fais. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment on en est arrivé là, en fait. Bientôt, il sera trop tard. Il est peut-être déjà trop tard. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider. C'est fini. Ils sont résignés. On les laisse dans la merde. On fait rien pour eux. Rien. On peut plus foutre les pieds dans les cités sans se faire agresser, sans se faire cracher dessus, sans se faire traiter de fils de pute tous les jours. Mais il faut pas faire de vagues. Il faut pas casser le matériel. Faut laisser faire. Bon, c'est comme ça. Mais on va où, là? Je comprends pas, en fait. C'est quoi le projet? À quoi on sert?
Voilà, donc le scénario s'inspire librement en fait d'une affaire qui est survenue à Marseille en 2012. Alors dans le film, cette fois, les trois policiers de la BAC dérapent et se mettent eux aussi à trafiquer de la drogue pour piéger les dealers. Ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur Cédric Jimenez, il pose une question en fait presque philosophique. Jusqu'où peut-on enfreindre la loi pour mieux l'appliquer?
Tout ce que ce film, je le filme avec, j'ai de l'affection pour ce que je filme. Il faut que je me sente concerné. Et surtout sans essayer de se mettre, d'être ce qu'on ne doit jamais être quand on filme, c'est-à-dire juge. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les personnages. Qui sont ces gens? Pourquoi? Qu'est-ce que je vis avec eux? Ce n'est pas de donner un avis sur eux, c'est de traverser un moment de vie avec eux.
Voilà, ça donne un polar franchement assez haletant, avec une mise en scène vraiment nerveuse. Il y a de très belles courses-poursuites aux quatre coins de Marseille, et puis une scène d'affrontement qui est assez incroyable.
Et puis alors, Cédric Jimenez, on a pu l'entendre, hein, c'est un Marseillais.
Oui, en plus, il a grandi dans les quartiers nord, et ça se sent, il prend vraiment plaisir à filmer sa ville, la Méditerranée, les bars d'immeubles, mais aussi les joggings, et bien sûr, la tchatche marseillaise. Bac Nord est en salle aujourd'hui.
Allez voir donc Bac Nord. Et vous nous avez dit les fantasmes,
bien sûr, de David Fuenquinos. Ouais.
Deux films à aller voir ce mercredi. Quand est-ce qu'on aura le droit à un prochain film de Maurice Barthélémy?
Quand il y aura moins de films qui sortiront.
Il y a trop d'embouteillages.
Ouais,
c'est ça, c'est un enfer.
Là, c'est compliqué à cause de tout ce qui s'est passé. Mais bon, j'y travaille.
Vous y réfléchissez déjà? Vous avez un scénar de près?
Oui, j'ai un scénario qui est là, qui est prêt à être tourné. Mais
On est plutôt dans le registre de la comédie ou du drame?
On sera dans une comédie un peu dramatique. Oui, c'est ça.
C'est
exactement. C'est l'histoire d'un si vous permettez, je vous raconte un peu l'histoire.
Oui,
c'est un agriculteur qui est près de la retraite, qui a une soixantaine d'années, qui est un type très fermé, très obtus, un peu raciste, et qui, suite à un AVC, se réveille et ne parle plus qu'arabe.
Intéressant.
Et donc
intéressant.
Il va découvrir d'où lui vient cette langue, parce que ça, c'est un syndrome qui existe, c'est le syndrome du langage étranger. Ouais. Il y a des personnes qui se réveillent après un coma et qui parlent une autre langue ou qui parlent avec un accent.
Incroyable, on apprend plein de trucs.
Je parlais pas français avant l'accident, moi.
C'est vrai,
je suis japonais de nationalité.
Allez, dans un instant, le blind test spécial chanteur dont le nom est un prénom. Vous êtes bon normalement en blind test, Maurice?
Oui.
Ouais, vous débrouillez un petit peu. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on entend là? C'est Blur.
Ah ben, alors là,
Girls and Boys,
là,
sur
j'étais dans le Blur.
Take your time.
C'était Girls and Boys de Blur sur Europe 1. Nous, on reste avec nos girls et nos boys de l'équipe. Soyez prêts pour votre blind test. Maurice Barthélémy, on revient dans une minute. À tout de suite.
Thomas Hill vous présente le club de l'été sur Europe 1.
La suite du club de l'été avec Marjorie Adelson, Joe Hume, et puis Maurice Barthélémy, hein, oui. Bien sûr, toujours là, fidèle au poste. Clément Lanoux est là aussi, il est resté avec nous, sympa, il a changé de micro, mais il est toujours là.
Je me sens bien ici.
et alors, on va faire ce petit blind test. Alors, on a beaucoup réfléchi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme blind test autour de Maurice Barthélémy. Et ce gros brainstorm a abouti à cette idée formidable de jouer uniquement avec des artistes qui ont un nom qui pourrait être un prénom. Oui. Allez, on commence super facile comme d'habitude.
Claude François.
Bien ah sûr. Oui, bien sûr. One point. Le titre, vous l'avez ?
Les Magnolias.
Magnolia.
Magnolia Forever.
Magnolia Forever.
Forever. La suivante, elle est un peu plus dure.
Oui. Marie-Myriam.
Oh, joli.
Ah, oui.
Et le titre, on l'a ou pas ?
Comme un enfant aux yeux de lumière ? Non.
c'est le début de la chanson.
Oui, l'oiseau et l'enfant.
L'oiseau et l'enfant.
Ouais. Ah, l'oiseau et l'enfant. Qui nous a permis de gagner l'Eurovision. Ouais. Hein, c'était quand même la dernière fois qu'on l'a gagné. Hein.
72 ou 73 ?
77, ouais.
77.
Ouais. Et la suivante. J'ai au fond du cœur une drôle de chanson sicilienne. Toujours deux prénoms.
Thierry Henry. Et oui, surprenant.
Il a chanté.
Ah oui, comment il s'appelle
Son vrai patronyme, c'est Francesco Maracatra.
Frédéric François.
Ah, yes. Ah. Frédéric François.
Je t'aime à l'italienne.
1985.
Pas vraiment qu'on allait faire un karaoké à la fin de cette émission, quand même. Je crois qu'il y a quelque chose à
sortir.
Il y a un truc à creuser là.
Il y a un talent, bien sûr. Ah, attention. On est un petit peu petit côté espagnol là, attention. On n'a pas pris la plus connue. Le titre, c'est Living la vida loca.
Oui, bien sûr.
J'ai une vie un peu fofolle.
Living la vida loca.
Ah non,
ça m'échappe. Ouais.
Il a chanté Clément.
C'est Ricky, ouais, c'est Ricky Martin.
Eric Martin, bien entendu.
Oui,
Ricky Martin.
Bien sûr. Allez, on revient en France, plus facile. Ah, je crois que je connaissais pas les couplets. Hein. Je découvre.
Jean-Pierre François ?
Non. Il y a du François dedans.
Ouais.
Ah,
c'est ta base
de... Oui. François Valéry ?
François Valéry.
Oui.
Aimons-nous vivre.
Ah bah. Aimons-nous pas la main, notre
du talent. 1989, 25 semaines au top 50.
Je connais d'autres radios où vous pourriez travailler au bout de là. Vous pourriez trouver du boulot sans problème.
C'est vrai. Ça peut m'intéresser, je t'en reparle en fin de semaine. Allez, prochaine chanson. T'es en pleine bourre et t'as la patate.
Ah bah oui.
Même si ce soir t'as perdu au quart. Ah si, Maurice,
ouais, mais là il imite Francis Cabrel, non?
Ouais. Non, c'est lui-même.
Ouais.
C'est
si initial, c'est un parti politique.
Ouais. Tu plais aux gonzesses et
minotes bades. Même non, si ta carte
bleue. Son vrai nom, c'est Patrick Bouteau. Et si c'était appelé Patrick ouais. Bouteau, eh ben on le diffuserait pas ce matin.
Ouais. C'est vrai. Et son pseudo, ah ben non, je vais le dire.
Il était présentateur de télé.
Oui,
ouais, c'est lui. Oui, c'est Patrick.
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 On a un autre prénom.
Sinon, Patrick Sébastien.
Eh, voilà. Ouais. J'ai cru qu'on allait se faire toute la chanson.
Voilà. Patrick Sébastien.
Allez, la suivante. Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi. La ah, elle est formidable. Une grande dame.
Oui.
Chanteuse, meneuse de revue, actrice.
Mireille.
Non. Son vrai nom, ça vous aidera pas, c'est Jacqueline Hanté.
Ma cabane au Canada.
Ah, ça aide un peu.
Si, ça aide un peu.
Cela dit, ça aide un peu.
Ah oui.
Bah oui.
Jacqueline, oui, Jacqueline. Jacqueline.
Lino Renault,
bien sûr.
On voit pas les clins d'œil à la radio.
C'est un peu chargé.
Lino Renault, bien sûr.
Alors la suivante, franchement, là, si quelqu'un trouve autour de la table, c'est difficile. Hein.
Dans le café.
Oui, on connaît tous cette chanson, bien sûr. Qui la chante.
Oui, le film aussi.
C'est
le film qui va avec.
Ah oui, Mentalo. Ouais.
Diabolomante.
Ouais. Diane Curis.
Et c'est chanté par.
Ouais, c'est ça. Quand tu racontes
les nuits, tu c'est peut-être que je suis le seul dont le père était fan et du coup
c'est vrai.
Ouais. J'ai l'album à la maison. Ouais.
Non,
ça me vient plus.
Bon, on va laisser Joe répondre alors.
Diabolo, c'est Yves Simon.
Ouais. Film de Diane Curie sur la vie d'adolescente dans les années 60.
Magnifique chanson
du film. Et j'étais totalement amoureux de l'actrice.
Bah oui.
Petit indice, on va rester dans les Simons avec la prochaine chanson. Une reprise de Chris Isaak, hein.
Ok.
Wicked Games.
Cela dit, Chris Isaak, ça marche aussi, hein.
Ouais, c'est vrai, on aurait pu le mettre.
Ça fonctionne aussi.
Mais qui chante là? C'est une Française.
Nathalie Simon.
Ouais. Ça aurait été drôle. Non, c'est pas Nathalie, c'est
Émilie
Simon.
Émilie
Simon,
ah oui,
bien
voilà,
joué.
Émilie Simon, pas Nathalie.
Titre bonus extrait de son album Mu en 2013. Le suivant.
Oui, c'est Jean-Pierre François.
Voilà. Joli. Ouais,
il en a trois, lui.
Ouais. Je te survivrai
d'un amour vivant. Footballeur aussi, hein.
Ouais.
Ça, c'est du Didier Barbelivien, ça.
Ouais.
Alors, on se régale là-dessus.
D'ailleurs, il y a une parodie par Dominique Farrugia, il me semble, de cette chanson que je vous invite à aller regarder sur les internets, qui est très drôle.
Tous les nuls. Allez, un peu plus fort. Ah, d'accord. Il nous met là-dessus.
Oui. Qui sèche leur
dentelle. Vous l'avez, ça?
Oui.
Renan.
Ah oui, voilà.
Oui. Renan.
Luce.
Ouais, les voisines. Assure.
Mon Friday. No. Yannick Noah.
Oui,
bien sûr.
Yannick Noah, la voix des sages. Je ne crois pas. Allez, la petite dernière pour la route. C'est lui.
Francky Vincent.
Et le titre?
Il l'a dit.
Alice. Où il nous parle de son amour de ski.
Oui. C'est une belle chanson. Tout en
poésie, évidemment.
Allez, dans un instant, Joe. Encore un double prénom qui s'est fait un nom. Hein.
Oui, tout à fait. C'est vrai. Ce sera George. L'ami George Michael.
George Michael. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Oh, c'est de plus en plus court, ces pauses pubs. Ça devient vraiment n'importe quoi. Refaites les pubs, s'il vous plaît. Dans cette émission, on aime les tubes et particulièrement ceux qui ont rythmé nos étés. Oui. Et aujourd'hui, Joe, vous en avez un. Il n'a pas seulement rythmé l'été.
Non, il a également rythmé exactement 554 millions de roulages de pelles selon des sources très solides. Il a également lancé la carrière solo d'une grande pop star et servi d'extrait sonore à des centaines d'émissions télé et radio dès qu'il s'agissait d'évoquer la chose sexuelle.
Ah oui, carrément, oui.
Bah oui, jugez plutôt. Maurice Barthélémy, vous faites quelque chose après l'émission?
Ah, oulala.
Oh. Ah bah là, tout de suite, on est dans l'érotisme suave. On est dans les grandes heures de Sexy Zap. Là, on a le front humide et le slip en feu.
Sexy enfin, Zap avec Franck de la
Souvenez-vous, bien entendu, sur une chaîne sur télé qu'on aimait bien. Enfin, on a surtout un vrai tube radio, cela dit, qui sort durant l'été 1984, le 18 août, et se hisse carrément en tête des charts britanniques, le tout premier single solo d'un des membres du duo Wham, George Michael, Careless Whisper. Alors, avec ce morceau, George Michael rentre dans l'histoire, ni plus ni moins.
À ce point, carrément.
Ouais, bah oui, parce qu'en 1984, officiellement, George Michael, c'est à la fois un artiste solo et un membre de Wham. Le morceau sort d'abord sous la forme d'un single signé George Michael, mais aux USA et au Canada, ça sort sous le nom Wham featuring George Michael. Donc une version longue de Careless Whisper sera également incluse au second album du duo, ce qui fait donc de George Michael le premier artiste à obtenir un morceau numéro 1 dans les charts, à la fois au sein d'un groupe et en solo en même temps.
Autre single de Wham écrit par George Michael qui se place à la première place la même année que celui-ci. Wake me up before you go,
go. Ça a été élu la chanson qui met le plus la pêche. Ça.
Ah ben bah ça c'est le matin si on est si on n'est pas trop bien réveillé ça fonctionne généralement. Alors après ça Wham sortira encore un album mais très vite c'est l'émancipation pour George Michael qui se lance définitivement en tant qu'artiste solo et deviendra une star. Mais au-delà de tout ça l'histoire de Michael Jackson de George Michael pardon c'est avant tout un destin assez tragique. On a beaucoup parlé dans cette émission de l'hypersensibilité et George Michael c'était quand même ça, c'était un être extrêmement timide, fragile, qui se cachait derrière des chansons finalement très solaires.
Ça vous parle Maurice, George Michael ou pas?
Bien sûr, j'avais même mis un morceau dans mon film Les Ex. J'aime beaucoup George Michael. But I gotta have
faith. George Michael qui a grandi dans une famille ouvrière, c'est un enfant réservé, son père tient un restaurant, il est jamais là, sa mère y travaille chaque soir en plus d'avoir un job la journée, donc il souffre vraiment de cette absence du père, il est très proche de sa mère. Lorsque George refuse d'entrer dans une école privée et assure vouloir faire de la musique, évidemment ses parents s'y opposent et toute sa carrière, il la passera finalement à rechercher cette approbation familiale qui sera jamais véritablement venue. En 1993, George Michael perd son premier amour, Anselmo Felipa, et il traverse une période véritablement difficile. Le décès de sa mère, 3 ans plus tard, laisse George Michael déjà accro à toutes sortes de drogues, complètement dévasté. Son souhait le plus cher, en fait, et il le dit plusieurs fois, serait de pouvoir enregistrer des albums et finalement sans jamais en faire la promo, sans jamais donner de concert, en gros vivre en marge du star system. Malgré tout, il continue de produire de la musique, de sortir des albums comme Holder en 1996, porté par le hit Fast Love. Holder est un album d'autant plus important qu'il aborde pour la première fois de front le thème de l'homosexualité que l'artiste révèle sans plus aucun sous-entendu avec une chanson en particulier, Let's Go Outside. Après cet album, la suite de la carrière de George Michael sera un petit peu plus compliquée, marquée par de nombreux problèmes d'addiction. Et après Patience en 2004, il sortira plus d'albums et n'apparaîtra vraiment qu'occasionnellement en public. Il disparaît en 2016, le matin du 25 décembre, qui était également le jour de naissance de sa mère, à une période où l'un de ses plus grands tubes est diffusé tout le temps, partout. Un morceau qui d'ailleurs, Last Christmas, sous ses aspects chanson de Noël, raconte une histoire de chagrin d'amour assez triste. Donc la discographie de George Michael finalement, elle n'est pas immense. Il a sorti assez peu d'albums, 3 avec Wham et 5 en solo, dont un composé d'ailleurs que de reprises de jazz. Mais il a sorti aussi énormément de singles, beaucoup de tubes. Et malgré son mal-être, malgré cette sensibilité liée énormément à l'absence du père, qui masquait derrière son aura de pop star, il aura apporté énormément de bonheur à des millions de personnes. Donc si vous voulez en apprendre plus sur la vie de George Michael, je vous conseille le documentaire de la BBC, George Michael, A Different Story, qui est disponible gratuitement sur Internet.
George Michael, merci beaucoup Joe. C'est sûrement Maurice Barthélémy un hypersensible, lui aussi, George Michael.
Totalement. Mais il y en a beaucoup dans la musique. Je pense aussi à Amy Winehouse, par exemple, qui ont souvent eu des destins assez tragiques parce que cette hypersensibilité, elle s'est révélée être une véritable fragilité. Et il y en a aussi beaucoup chez les actrices et les acteurs aussi.
D'ailleurs, votre livre, Fort comme un hypersensible, vous le dédiez à votre fille, Tess. Ouais. Vous dites, j'espère qu'elle découvrira son hypersensibilité le plus tôt possible et qu'elle lira ce livre le plus tard possible. Pourquoi vous dites ça?
Non, parce que dans le bouquin que j'ai écrit, j'ai sorti quelques infos qui étaient un peu gênantes pour un papa. Et donc je me suis dit, bon, ça serait bien qu'elle le découvre un peu plus tard. En revanche, c'est vrai, ça serait bien qu'elle le lise, enfin en tout cas qu'elle lise sur l'hypersensibilité, qu'elle puisse avoir très vite des armes et des moyens de contrer un peu ces petites
fragilités. Parce que vous êtes persuadé qu'elle l'est, elle aussi.
Oui, oui, bien sûr, elle l'est totalement. Oui, oui, oui.
Totalement, très bien. Et ben on la salue, elle est à...
Elle vit à Los Angeles.
Elle vit à Los Angeles, hein, c'est
ça. Et elle s'appelle Tess, et on lui fait un bisou même s'il est pleine nuit pour elle.
Allez, dans un instant, notre guide, Marjorie Adelson, et encore quelques bons plans vacances dans sa besace. On part où aujourd'hui ?
On part en Lorraine, dans les Vosges plus précisément.
Ça va vous faire plaisir, Maurice, à tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
La suite du club de l'été, 10h38, ça va, on a encore quelques minutes ensemble à passer, notamment avec Marjorie qui nous emmène en Lorraine, dans les Vosges donc, exactement.
Oui, c'est la destination parfaite pour prendre un grand bol d'air frais avant la rentrée, parce qu'avec toutes ces forêts, ces vallons et ces lacs, c'est vraiment le paradis de la randonnée.
Alors justement, vous avez repéré une jolie balade à faire dans le coin.
Oui, on parlait tout à l'heure des fantasmes, et bien si vous êtes cascadophile, je vous conseille un lieu magique et vertigineux, la cascade de Tendon, je ne sais pas si vous connaissez Maurice Bacalpin. Ben voilà, Tendon, comme le Tendon, ou plutôt les cascades en fait, car il y en a deux. Une grande qui fait plus de 30 mètres et une toute petite. Alors pour y accéder, il vous faudra marcher à travers la forêt et franchir quelques torrents. Mais voilà, ça reste une randonnée facile, notamment si vous êtes avec des enfants. Non, je vous promets, je vous donne des plans safe, moi, dans cette chronique.
Il y a des loups qui passent, enfin, c'est vraiment...
Après, il y a un vieux monsieur avec une énigme en haut d'un fort. C'est...
Et alors, les Vosges, c'est aussi une région qui est réputée pour ses confiseries.
Et oui, avec le fameux bonbon des Vosges. Il existe de nombreuses confiseries artisanales dans la région. C'est une occasion unique de se faire des caries en famille, tout en s'instruisant, bien sûr.
Et alors, vous nous en conseillez une en particulier ?
Ça dépend un petit peu de où est-ce que vous êtes dans la région. Si vous êtes dans les Hauts-de-Vosges, je vous conseille justement la confiserie des Hauts-de-Vosges. Alors, ce qui est super, c'est que les bonbons sont fabriqués comme autrefois, avec du sucre cuit à feu nu dans des immenses... dans des immenses chaudrons en cuivre.
Je ne connais pas cette ville. Voilà.
Je ne connais même pas le principe du feu nu, quoi.
C'est une recette ancestrale, en fait, justement, qui date de 1950. Donc, allez-y.
Parce que justement, on peut visiter la confiserie carrément.
Oui, la visite, elle dure une heure et en fait elle permet justement de voir tout le processus de fabrication depuis la cuisson du sucre jusqu'à l'emballage.
En passant par le fenu bien sûr.
Voilà, en passant par le fenu. Il y en a vraiment pour tous les goûts, framboise, caramel, eucalyptus ou encore sapin. Et bien sûr, tous les arômes sont naturels.
Et puis, on ne peut pas parler des Vosges sans parler de Gérardmer.
Oui, la ville est célèbre pour son festival international du film fantastique, bien sûr, mais aussi pour son lac. C'est le plus grand des Vosges. Et si vous voulez faire le tour, il y a un sentier de 7 km qui vous permet. Il faut compter à peu près 2 heures de promenade et c'est très sympathique.
Et alors, toujours à Gérardmer, vous avez trouvé une activité plus physique cette fois.
Oui, alors si vous êtes en quête de sensations, le parc aventure Acrosphère propose des activités en pleine nature pour toute la famille. Le directeur Pascal Suisse est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Alors, Acrosphère propose tout d'abord un parcours mixte avec notamment, ça va vous plaire Maurice Barthélémy, de l'acrobranche.
Mmh. Oui, tout à fait. Oui.
Alors expliquez-nous un peu les différents types de circuits.
Alors notre particularité surtout c'est qu'on est sur une ancienne carrière de granit qui a fourni d'ailleurs les pavés de la butte de Paris. Et donc on a à peu près les 2/3 de nos parcours qui sont en via ferrata, c'est-à-dire sur le rocher, sur des falaises, et on vous emmène entre 0 et 40 mètres sol, avec des grandes tyroliennes qui peuvent aller jusqu'à 250 mètres. Quoi.
Donc justement, il y a des parcours aussi pour les enfants à partir de 4 ans, je crois, qui sont bien sécurisés et pas très hauts.
Tout à fait, voilà. Tous nos parcours sont en ligne de vie continue, donc une fois qu'on est accroché, on ne peut pas se détacher. Pour la sécu, c'est vraiment top. Et puis, il y en a depuis les 4 ans, donc notre formule kid, jusqu'à ceux qui veulent se faire des grands frissons sur le parcours super aventurier.
Voilà, et pour ceux qui ne sont pas trop frissons, qui préfèrent un parcours plus calme, vous en avez un autre que vous proposez qui s'appelle le Sentier des Chatouilles.
Ça, c'est bien. Voilà, moi, je veux celui-là.
C'est un très joli nom.
Alors, avec un fenu après.
Alors, qu'est-ce qu'on y fait sur ce sentier ?
Alors, ce sentier des chatouilles, c'est une balade sensorielle et panoramique. Et donc, ça chatouille, mais ça peut aussi gratouiller, puisqu'on vous fait marcher pieds nus dans notre magnifique site. Et on vous fait marcher aussi bien dans la boue, des fois jusqu'aux chevilles, des fois jusqu'aux genoux. On peut vous faire passer près de cascade. Vous pouvez passer sous la cascade, d'ailleurs. Vous pouvez aller dans l'eau, vous pouvez marcher sur de la paille, du foin... Et puis surtout, regardez de superbes vues sur le lac de Gérardmer que vous ne verrez que depuis là.
Voilà, donc un joli parcours. Et puis il y en a encore un dernier, cette fois-ci, c'est pour solliciter non pas notre voûte plantaire, mais nos méninges. C'est un mix, je crois, de jeux de pistes, c'est ça, de parcours d'orientation ?
Oui, c'est un Explore Game qu'on a mis en place depuis l'an dernier. Donc c'est un mélange entre Escape Game et jeux de pistes, jeux d'orientation. C'est-à-dire qu'on vous donne à l'accueil une tablette, et sur cette tablette, vous aurez des explications. Et on va vous, un peu comme un GPS, vous allez devoir trouver les emplacements des énigmes, mais en vous orientant sur notre site. Voilà. Et une fois que vous avez l'énigme, vous pouvez décider d'aller à telle ou telle autre énigme. Donc il faut être assez tactique et en même temps réfléchir un petit peu.
Ouais. Voilà, donc ça s'appelle les druides de Celardor. Alors selon le parcours choisi, là, il faudra compter entre 3 euros et 30 euros. Merci beaucoup Pascal Suisse d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes le responsable du parc Acrosphère qu'on trouve du coup à Gérardmer.
Ça vous branche Maurice Barthélémy, ce petit plan
Moi j'ai découvert Gérardmer. Mais en plein hiver, justement pendant le festival, j'étais dans le jury et j'ai découvert une région mais absolument sublime en hiver, et c'est très beau aussi en été, mais c'est véritablement la montagne telle qu'on l'a un peu dans son imaginaire, c'est-à-dire c'est vallonné, c'est sublime comme, ouais. comme région et moins connu que les Alpes et pourtant bien plus beau que les Alpes.
Et vous étiez dans le jury du film Fantastique, vous ouais. y connaissez en Fantastique, ouais. c'est un des genres qui vous intéresse ?
J'adorais ah ouais les films d'horreur, j'en regarde moins aujourd'hui, mais je me souviens qu'à l'époque on regardait des films. On se retrouvait à 9h du matin dans la salle à voir des gens qui se faisaient décapiter, ce qui était un peu tôt.
Les journées doivent être très longues quand même.
Et ça fait, oui, parce qu'on enchaînait 5-6 films dans la journée et c'était éprouvant. Ah. Mais c'était tellement drôle aussi parce que les gens, y a des véritables aficionados dans la salle qui hurlent dès qu'il y a le générique qui arrive parce qu'il y a, y a des codes comme ça et c'était très drôle à faire.
Ça vous donne pas envie d'en faire un ou même peut-être en mode parodique ?
J'ai fait une parodie de film qui s'appelle Pas très normal activité, qui était une parodie ouais. de paranormal activité. Ouais. Mais non, aujourd'hui, j'ai fait. Ça y est,
c'est bon,
ce
ça c'est fait, c'est coché. Allez, dans un instant, on passera un coup de fil à la chef Virginie Basselot. Mais avant ça, on écoute Ella, qui n'est autre que la sœur de Clara Luciani, avec son titre Pas d'ici sur Europe 1.
Je suis pas d'ici, j'aime bien Paris, mais souvent je lutte quand ça tire la gueule. Souris. C'est vrai qu'ici, t'as pas le temps de causer aux gens, même quand t'es seul. Oublie. Elle est où la mer ? Mon sel de Provence et les gens qui font pas de manière. J'ai laissé derrière mes amis d'enfance et les airs que me jouait mon père. Sur le pavé, je veux mouiller. Mais quand tout est gris, maintenant moi aussi je tire la gueule. Souris. C'est vrai qu'ici, t'as pas le temps de prendre le temps, vie en puzzle. J'entends plus la mer, l'accent qui chante et le mistral qui défie les nerfs. J'ai laissé derrière les années de flemme, à Paris j'ai toujours à faire.
Mouillé par la pluie comme chaque matin. Je vois défiler, je laisse parler les souvenirs comme un refrain. Sur le pavé, cheveux mouillés par la pluie comme chaque matin. Je vois défiler, je laisse parler les souvenirs comme un refrain. Et j'aime me rappeler que là-bas le soleil brille, quand la capitale en été le Vénusien devient hostile.
C'était Pas d'ici de l'excellente Ella sur Europe 1. Ne bougez pas, dans un instant, on file à Nice dans un palace pour mettre les pieds sous la table. Tranquille, à tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
De retour pour les toutes dernières minutes du club de l'été de Maurice Barthélémy. Il y a un monde fou dans ce studio. Marjorie, Joe, Clément, ça va tout le
c'est
monde.
C'est bien, on est très bien, bien quand on est tous là.
C'est bien,
moi.
C'est sympa. Rajoutez du monde, s'il vous plaît. Rajoutez des micros. Et comme chaque jour, on va passer un petit coup de fil à un chef d'un restaurant pour sa recette d'été. Aujourd'hui, on est avec Virginie Basselot, la chef des cuisines du Negresco à Nice. Bonjour Virginie.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue dans le club de l'été. Alors vous êtes meilleure ouvrière de France, deuxième chef seulement à avoir obtenu ce titre. Comment on explique ça d'ailleurs? Que vous soyez la deuxième.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se présentent, donc voilà.
Il va falloir que les choses changent.
Absolument.
Ça reste un milieu très très masculin, la cuisine encore?
Oui, encore beaucoup.
Vous voyez pas les choses évoluer?
Ouais,
on avance un peu quand même. Bon.
Oui.
Alors quelle recette vous allez nous proposer aujourd'hui?
Alors moi aujourd'hui je vais vous proposer un produit local, donc la truite du Sian en tartare.
Ouais.
Et on la prépare avec de la pomme, de l'estragon pour rafraîchir, un petit peu de vinaigre de riz, de l'huile d'olive bien sûr. Et on termine avec du yaourt grec pour amener de la fraîcheur et des œufs de truite.
D'accord.
J'aime beaucoup.
La truite, ça se mange souvent en tartare?
Oui, on peut la manger en tartare. Enfin, moi, j'aime bien, surtout sur cette saison, des choses très fraîches.
Ouais. Et bah, merci beaucoup pour cette bonne idée de recette de l'été. Merci Virginie Basselot, je rappelle. Basselot, pardon, chef des cuisines du Negresco à Paris. Un très bel établissement, le Negresco. Virginie, vous pouvez peut-être nous en dire un mot.
C'est une maison emblématique.
Ouais.
Un hôtel
sur
avec,
la croisette.
Ouais. Sur la promenade.
Sur la promenade, pardon.
Des
promenade des Anglais, oui.
Donc c'est un hôtel chargé d'histoire avec encore une maison particulière. Et c'est un hôtel qui fait rêver avec ses œuvres d'art.
Ouais, c'est un
c'est
hôtel,
immense, c'est immense. Ouais. Le hall est dingue, d'ailleurs c'est pour ça que ça résonne un peu derrière vous. On sent justement la, la beauté du lieu derrière.
Et ben, merci.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup Virginie, j'ai dit croisette alors que ma femme est niçoise,
ouais,
ça va être très compliqué en rentrant à la maison. Maurice Barthélémy, on revient une minute à votre spectacle sur l'hypersensibilité. Au final, on vous a déjà beaucoup posé la question, j'imagine, mais vous diriez qu'être hypersensible, c'est plutôt un cadeau dans la vie ou un fardeau?
Ah, pour moi, c'est un vrai cadeau. Une fois que j'ai compris que j'étais comme ça et que je me suis débarrassé de toutes les petites béquilles que j'utilisais pour calmer mes petites angoisses, calmer mes petites manies, mes petits tocs, etc. Aujourd'hui, je peux vraiment en profiter et utiliser mon intuition et utiliser ma pensée en arborescence.
C'est quoi ça ?
Bah, cette pensée qui fait que tout d'un coup, vous avez tendance à toujours un peu anticiper les choses. Donc, je prépare un peu en amont et ça me permet de moins stresser et d'être plus détendu. C'est la raison pour laquelle je prépare ce spectacle avec soin. C'est que justement pour m'enlever du stress, et donc je vais arriver sur le plateau détendu parce que j'aurais bien préparé. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'en fait on a véritablement des grandes qualités, nous qui sommes hypersensibles. Il faut juste, pour pouvoir bien en profiter, se débarrasser de toutes les petites choses, notamment le stress, pour pouvoir bien en profiter.
C'est pour ça aussi que vous êtes toujours à l'heure, par exemple.
Exactement,
c'est pour vous éviter du stress.
Exactement. Et par exemple, quand je vais prendre l'avion, je suis là une heure et demie avant parce que je déteste stresser avant de prendre l'avion.
Ouais.
Donc c'est ça. Il faut trouver des astuces au quotidien pour pouvoir véritablement bien vivre cette hypersensibilité. Et c'est pas l'hypersensibilité qui est gênante. C'est tout ce qu'on développe pour compenser les angoisses et autres choses qui nous embarrassent.
Mais la notion même d'hypersensible, elle est assez récente. Hein. Avant, les gens, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient. C'était ni un problème psychologique majeur, ni une maladie. Vous dites même, avant, je craignais d'être bipolaire.
Ouais, c'est vrai. Bah oui, parce qu'il y avait quand même des choses chez moi qui étaient un peu étranges. Cette espèce de caméra sur moi-même que j'avais en permanence où je m'auto-observais, ça me paraissait bizarre. Et en fait, c'est un véritable truc des hypersensibles de se dissocier un peu parce que le stress est tellement grand qu'ils se sortent un peu de eux-mêmes. Donc.
Mais est-ce que justement, pardon, il n'y a pas 100 manières différentes d'être hypersensible ?
Tout à fait, et c'est une très bonne remarque. On a des points communs, mais c'est vrai qu'il y a plein d'hypersensibilités différentes. Et au final, c'est une véritable richesse. Quoi.
Et c'est pour ça aussi que vous avez fait ce livre et ce spectacle, c'est pour que les gens soient un peu rassurés et mettent un mot finalement.
Exactement.
Sur ce dont ils ont l'impression de souffrir peut-être.
Exactement, parce qu'il y a plein de gens qui par exemple n'aiment pas lire. Ça permettait au travers de cette conférence de les amener à l'hypersensibilité de façon ludique, drôle, légère, sans qu'ils soient obligés de se plonger dans un bouquin de développement personnel et surtout qu'ils se rendent compte qu'ils sont nombreux et donc favoriser une rencontre, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a des tests pour savoir si on est hypersensible ? Parce que moi, ça me donne vraiment envie de faire le test.
Oui, je sais pas vous. Ça existe. Sur Internet, vous trouvez des questionnaires qui vous permettent de vous mettre sur la voie. Ouais.
Et c'est fiable, ça ?
Oui, tout à fait. C'est tout à fait fiable. Parce que l'hypersensibilité, une fois de plus, c'est pas compliqué à mettre à jour. Et c'est quelque chose de très évident. Une fois qu'on a compris qu'on était comme ça, on se dit, bah ouais, je le suis, point barre, tout va bien.
Et après, on peut se faire aider.
On peut se faire aider si on en a besoin.
Si on en a besoin.
Mais pas forcément.
Et est-ce que les hypersensibles se reconnaissent entre eux ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple, l'écoute qui est très importante. Les hypersensibles sont des gens qui écoutent très bien et qui posent des bonnes questions. Donc ça pourrait être un signe de reconnaissance.
Vous avez remarqué notre hypersensibilité. Voilà. Ce que vous vouliez dire.
Tout à fait. Il y a l'humour aussi. Les hypersensibles ont un humour en commun. Il y a l'altruisme, il y a la surempathie. C'est-à-dire ce besoin d'aider les autres. Et puis d'être touché par les animaux aussi, les animaux de compagnie. Donc il y a plein
que des qualités en fait.
Mais oui.
Non mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de défauts en fait.
Il y a des défauts parce que par exemple les angoisses, hypersensibles peuvent être des gens très très angoissés, voire même qui peuvent aller doucement vers une dépression. Donc il y a quand même des obstacles, mais moi j'ai tendance à essayer de positiver l'hypersensibilité.
Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette question de l'hypersensibilité, je rappelle que vous serez sur scène à la Pépinière Théâtre à partir du 17 septembre.
Bah, c'est bien 19h. Ça.
Voilà, pour cette conférence comédie tirée de votre livre « Fort comme un hypersensible » que vous pouvez lire également. Il est disponible chez Michel Lafon. Merci beaucoup Maurice Barthélémy
d'avoir
passé ces deux heures avec nous. C'était super chouette de vous avoir demain dans le Club de l'été. On aura le plaisir de recevoir un grand animateur, Bruno Guillon, qui nous parlera de sa rentrée. Merci à toute l'équipe du club à la préparation de cette émission. Merci messieurs dames de m'avoir accompagné aujourd'hui. C'était un bonheur.